Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 27 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de reportage photo institutionnel et pour ça je suis aujourd'hui avec Cyril Bruno. Salut Cyril.
Salut.
T'es photographe ?
Oui, voilà, je suis photographe, photo pour les entreprises.
Quelles entreprises par exemple ?
Ben, Total, L'Oréal, des grosses entreprises principalement, Plastic Omnium, des grosses sociétés.
Et t'es aussi auteur de livres techniques sur la retouche photo parce que tu fais pas mal de retouches.
Voilà, j'ai fait beaucoup de retouches pour les grandes marques de cosmétiques, pour les marques de luxe et pour les sociétés pour lesquelles je travaille en tant que photographe. Et ce qui fait qu'on m'a proposé d'écrire des livres, et là j'en suis à mon 7e livre, dont les cahiers d'exercices Photoshop aux éditions Erol, qui sont vraiment des pas à pas, des tutoriaux sur Photoshop, ou okay. Photoshop Elements.
Oui, voilà, là je vois les trois premiers sur Photoshop et le dernier sur Photoshop Elements.
Voilà, sur Photoshop Elements, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, avec Bernard Richebet, qui écrit la plupart des livres avec moi, que des gens qui avaient Photoshop Elements se servaient des premiers cahiers d'exercices pour essayer d'apprendre à se servir de Photoshop Elements parce qu'ils ne trouvaient pas de tutorio sur Photoshop Elements. Tout était concentré sur Photoshop. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un cahier d'exercices exclusivement sur Photoshop Elements où il y avait beaucoup de demandes et il y avait peu d'offres. Donc on a fait ça et il y a de bons retours. Là, il vient juste de sortir il y a un mois.
Et tu as une démarche pédagogique aussi sur ton site web, puisque tu proposes des tutoriels de retouche.
Voilà, donc j'ai inclus certains des tutoriaux qui sont dans les livres, plus d'autres sur mon site, pour faire partager à d'autres des techniques de retouche, de retoucheurs professionnels. Et voilà, je me suis dit, c'est ma petite contribution parce que j'ai aussi beaucoup appris en surfant sur Internet, en allant de site en site. Et je me suis dit, moi aussi, je vais un petit peu contribuer avec ce que je sais faire.
Et alors, d'après ce que j'ai compris, tu fais de la retouche depuis très longtemps, en fait.
Voilà, je me suis mis à la retouche photo dès qu'on a pu un peu scanner des photos facilement et les avoir sur l'ordinateur. Les appareils numériques n'étaient pas du tout monnaie courante à l'époque, mais on scannait les photos et on commençait les retouches sur l'ordinateur et je m'y suis mis à ce moment-là et donc ça fait très longtemps. J'ai commencé, mes premières retouches étaient pour Yves Rocher où je retouchais des pack shots et des natures mortes Yves Rocher. Voilà, c'est par là que j'ai commencé il y a plus de 10 ans, presque 15 ans.
Alors, sur rendez-vous-création.org, on va essayer de mettre une sélection, justement, de tes travaux par rapport à la retouche.
D'accord.
En montrant ce qu'il y avait avant et ce que tu en as fait. En espérant qu'on va en trouver, qu'on puisse vraiment utiliser, publier sans problème.
Oui, je pense qu'on va trouver des exemples pertinents, voire des images où on ne s'attend pas à qu'elles soient retouchées. Ou des images, on s'attend à qu'elles aient été retouchées, mais on ne sait pas le point de départ, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y avait au départ. Et c'est toujours très intéressant parce que on se rend compte que l'ordinateur permet vraiment d'aller très loin et puis d'être véritablement un outil pour même composer des images, pas simplement gommer les défauts, mais composer véritablement une image.
Pour le fond musical, tu me disais que tu avais une petite idée.
Alors oui, j'aurais bien aimé illustrer parce que j'ai une épouse qui est chanteuse, qui fait de la musique tzigane, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc pourquoi pas mettre ça en fond sonore.
Ok, impeccable. Et puis on mettra peut-être un morceau en entier à la fin, si c'est possible.
Oui, je pense, puisqu'elle en a mis sur son site, donc j'imagine que c'est possible.
Alors, pour tes reportages photo institutionnels, tout doit commencer par une commande.
Voilà, alors ça commence en général par une demande de devis qui est mise en concurrence avec d'autres. Et puis, à partir de là, une fois qu'on est sélectionné et choisi, il y a un rendez-vous pour parler de comment on va faire le travail. Puis après, ça commence, le travail commence en tant que tel. Il faut l'organiser, le planifier, et puis faire la photo.
Il y a des documents qui formalisent tout ça ?
Alors oui, souvent. Déjà, il y a un bon de commande, au minimum. Et puis parfois, il y a des contrats, c'est-à-dire des contrats en ce qui concerne l'utilisation des photos. pour les droits d'auteur. Ça, c'est un contrat qui me protège plutôt moi. Et puis, il y a aussi un contrat qui protège, par exemple, l'entreprise qui me demande que les photos soient confidentielles, par exemple, ne soient pas utilisées sur mon site internet, ne soient pas divulguées à qui que ce soit. Il y a souvent ce genre de contrat.
Et en ce qui concerne les sujets ?
Alors les sujets, c'est ce qui est passionnant dans la photo, c'est que ça va, la gamme est large et on fait jamais la même chose. C'est-à-dire que un jour on va se retrouver dans un hôpital à faire des photos d'une opération. Le lendemain, on va être dans un champ de blé à photographier des camions. Ensuite, on va partir en Afrique faire des photos de scientifiques. Et puis ensuite, on va aller dans un palace faire un portrait, et tout ça change de jour en jour, et ce qui est passionnant, c'est ça. Il n'y a jamais la même chose, on découvre des univers dont on n'aurait jamais eu l'accès autrement. Et moi qui suis très curieux et qui aime bien découvrir des nouvelles choses, ce métier me passionne.
D'accord, donc on pourrait imaginer au départ que les photos dans les entreprises, c'est pas très rigolo, et en fait... On découvre plein de choses.
Voilà, et on découvre énormément de choses, et c'est assez passionnant dans le sens où, ça dépend ce qu'on fait. Il y a des choses dans les entreprises, des photos à faire qui ne sont pas passionnantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de décrocher justement ces commandes où il y a véritablement quelque chose à faire qui est intéressant, quoi.
Quand tu commences à travailler sur un reportage, t'es tout seul ou tu travailles avec d'autres personnes?
En général, je suis seul. Ça dépend. Il y a parfois un directeur artistique qui est là avec qui on discute. Parfois, quand je fais juste les retouches, il m'arrive d'être sur un travail où je fais les retouches et pas les photos. Alors là, je suis en relation avec un photographe et on discute de ce qui est possible à faire et ce qui ne l'est pas. Alors, comme moi, je suis aussi photographe, on rentre vite sur la même longueur d'onde parce que je sais ce qui est quand même réalisable en prise de vue au niveau de l'éclairage, au niveau technique. Et donc voilà, on discute de ce qui est possible, comment le faire, comment le mettre en place, et ça c'est aussi assez passionnant.
Comment ça se passe au niveau du budget?
Au niveau du budget, c'est-à-dire on parle d'un budget, une fois qu'on a par exemple le client qui nous demande, voilà, j'aimerais faire des photos d'un sujet précis, on essaye de se rendre compte de ce que ça va mettre en place pour pouvoir faire cette prise de vue. Et puis, on détermine un coût. Alors, il y a des photos qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, d'autres qui sont assez compliquées et qui nécessitent beaucoup de matériel. Donc, le budget n'est pas le même. Et c'est en fonction du temps passé et du matériel à mettre en œuvre pour faire la photo que le budget s'élabore.
Oui, peut-être parfois, il faut un hélicoptère ou...
Moi, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais ça peut arriver. Enfin, c'est tout à fait. C'est le genre de choses qui peut... qui peut entrer en compte. Il y a aussi les voyages en avion, les hôtels, il y a beaucoup de choses.
Est-ce que les reportages, tu les écris à l'avance? Est-ce que tu fais quelque chose comme un storyboard, par exemple?
Alors, oui et non, parce que souvent, c'est un peu plus vague que ça. C'est-à-dire qu'on discute avec le client, il nous dit, j'ai une usine à tel endroit, par exemple, où j'aimerais mettre en valeur la chaîne de montage de mes automobiles, par exemple. Voilà ce que j'aimerais voir. Et on y va, puis on fait les photos qu'il nous a demandé, plus d'autres, puis on en discute en cours de route, même sur place. On dit, est-ce qu'on pourrait montrer ça de telle et telle manière? Parce que c'est difficile de se rendre compte souvent à distance, quoi. Donc le gros est un peu tramé, mais c'est vrai que c'est souvent affiné sur place.
Donc il n'y a pas forcément de repérage?
Quand c'est possible, oui. Moi, j'essaye de faire le maximum de repérage dès que je peux. Il y a des fois où ça n'est pas possible. Mais si c'est sur Paris, pas loin, je préfère faire un repérage pour... être sûr que tout se passe bien au moment de la prise de vue et pas avoir de surprise.
T'as eu des mauvaises surprises justement des fois parce que t'avais pas fait de repérage, t'avais pas eu la possibilité d'en faire.
Et bien parfois, quand on va à l'étranger pour faire une photo, on n'a aucun moyen de faire du repérage, puis on n'est souvent pas toujours très habitué à la manière de faire dans le pays. Et on a toujours des surprises, et c'est ça qui est... c'est sûr et certain qu'on aura des surprises, mais ce qui est intéressant, c'est de réagir vite pour pallier aux problèmes et de trouver les solutions rapidement. Ça, c'est ça qui est sympa aussi.
Quand tu commences un repérage, tu te focalises sur quoi, en gros ?
Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment du sujet. Alors, par exemple, s'il faut aller faire des photos... par exemple, je prends un exemple d'un reportage des trans. Moi, j'ai fait un reportage pour Total qui voulait mettre en évidence ces transporteurs, c'est-à-dire les camions qui transportent l'essence. Mmh. Et ils voulaient les mettre dans un bel endroit, etc. Donc, il fallait repérer les lieux, le sens de la lumière, comment ça allait évoluer au cours d'une journée, prévoir une journée où il y allait avoir la météo qu'on souhaite. Et une fois ça est décidé, quand on doit placer les camions à tel et tel endroit, ben, c'est fait, tout est décidé, tout est choisi, et on perd pas de temps au moment de la prise de vue, parce que on en a besoin, au contraire, du maximum de temps pour faire le maximum d'images.
Quel matériel tu utilises, généralement ?
Alors moi j'utilise 24-36 numérique. Je travaille beaucoup avec un Canon 5D, que j'aime beaucoup parce qu'il est un capteur plein format. En même temps, le boîtier est pas trop lourd,
pas trop gros,
pratique. Moi, je ne vois que des avantages à ce boîtier. Je l'aime beaucoup. C'est un boîtier vraiment avec lequel je me sens à l'aise. Et puis, quand on part aussi, je trouve que le poids est important de ce qu'on transporte. C'est important de pas être trop lourd, et puis surtout en avion d'ailleurs, parce que maintenant ça devient de pire en pire pour les bagages que l'on veut mettre en cabine. Donc ce boîtier, moi je l'aime beaucoup.
Moi aussi. Tu montres quel objectif
ça
dessus.
Ça dépend vraiment du travail. Alors il y a différents, quand c'est un peu d'événementiel, c'est assez intéressant d'avoir des zooms, parce que ça permet d'avoir une focale qui n'est pas fixe et de pouvoir justement ajuster sa focale assez rapidement. Quand c'est des sujets où c'est un peu plus statique, j'aime bien utiliser des focales fixes. Il y a des objectifs que j'aime beaucoup. J'adore le 100 macro. Dès que je peux l'utiliser, je l'utilise parce que je l'aime bien, cet objectif. Puis il y en a d'autres. Il y a plein d'objectifs chez Canon que l'on peut utiliser en fonction de ce que l'on veut faire. La gamme est large.
Donc tu choisis le moment de faire les prises de vue en fonction des repérages.
Voilà.
Tu choisis l'éclairage en fonction de ce moment.
Mm-hmm.
Et donc, éventuellement, tu transportes des flashs de studio ?
Souvent même, d'ailleurs. Alors, ça fait beaucoup de choses à transporter. Parfois, il faut souvent vraiment amener tout un studio dans le lieu où on fait les photos. Ça, c'est vraiment le propre de la photo pour les entreprises, c'est que ça se fait rarement en studio. C'est-à-dire que c'est souvent sur site. C'est souvent dans un endroit. Alors, il faut ramener plus ou moins d'éclairage selon la taille des endroits ou des choses à photographier.
Tu dois faire appel à la location, des fois ?
Parfois, quand je n'ai pas le matériel avec moi, oui, je dois appeler de location, mais quand même, c'est rare. J'ai souvent le matériel dont j'ai besoin. Mais bon, quand j'ai besoin de matériel supplémentaire, c'est vrai que la location est un bon moyen.
J'imagine que tu... tes photos en RAW plus JPEG, donc deux formats d'un coup ?
Ah oui, je fais RAW plus JPEG, mais j'utilise jamais le JPEG, donc à chaque fois je me demande pourquoi je fais pas que RAW.
Au cas où il y a un problème.
Oui, voilà, c'est ce que je me dis, au cas où il y a un problème, mais bon, le RAW me suffit largement.
Est-ce que tu as des réglages privilégiés, par exemple ? Au niveau du mode d'exposition, est-ce que par exemple tu travailles plus en mode A ou dans un autre mode ? D'ailleurs, c'est un Canon 5D, donc ça s'appelle le mode AV.
AV, c'est-à-dire priorité ouverture. Mm-hmm. Ça dépend des sujets, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, il y a des sujets où c'est la vitesse qui est importante, d'autres c'est l'ouverture. Moi, j'adore travailler en manuel, mais ça dépend pour quel sujet. Il y a d'autres sujets où travailler en manuel, c'est pas le pied. Mais j'aime bien...
Donc plus le mode AV pour les événementiels, plus le mode M, donc manuel, pour tout ce qui est fixe, peut-être ?
Moi, je serais plutôt avec le mode TV, c'est-à-dire priorité vitesse quand je suis en événementiel. Ça dépend, parce que parfois ce qui est important c'est la profondeur de champ, parfois c'est la vitesse, parfois ça dépend vraiment du lieu. Ça serait difficile de dire un principe récurrent, parce que ça vraiment ça change en fonction du sujet.
Alors justement, quand tu es dans un lieu, par rapport à ce que c'est un reportage, est-ce que tu as une démarche particulière ? Est-ce que tu commences par des plans larges, ensuite tu resserres ?
Ça dépend. Ça dépend toujours de si c'est quelque chose d'événementiel. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Non, je commence. Ça dépend de beaucoup de domaines. Ça serait difficile de dire... voilà comment on fait en général...
Pour un événementiel, par exemple, tu dois prendre le programme, j'imagine, voilà, pour savoir exactement ce qui
temps.
Se passe.
Voilà, je fais en fonction du temps et j'essaye de caser les plans larges quand il y a des, des parties moins importantes.
J'imagine que le droit à l'image, c'est géré au moment de la mise en place du contrat.
Voilà, alors le droit à l'image, c'est toujours c'est pas un problème, mais c'est toujours quelque chose à laquelle il faut penser, c'est-à-dire que les personnes qui sont en photo acceptent l'utilisation que l'on va en faire. Voilà, donc il y a des papiers à signer. Parce que, il faut faire signer des papiers de chaque personne photographiée.
Et par rapport à ça, il n'y a jamais de problème ou...
Ben non, parce que en principe, les gens qui ont accepté d'être en photo ont donné leur accord verbal. Après, il suffit juste que ça soit écrit. Pour protéger tout le monde, pour pas que on change d'avis, que la personne qui est photographiée ne se retrouve pas en photo n'importe où, et puis que le photographe ne soit pas mis en danger si jamais la personne changeait d'avis. Donc c'est toujours bien que les choses soient noires sur blanc.
Une fois que tu passes sur l'ordinateur, j'imagine que tu fais une sélection, un tri.
Oui, alors ça c'est un gros partie du travail, c'est ce qu'on appelle l'editing, et là il faut vraiment être percutant pour choisir les bonnes photos que l'on a prises. Oui, ça prend beaucoup de temps.
Il y a un logiciel que tu affectionnes particulièrement ?
Alors moi, j'utilise beaucoup, pour faire mon editing, j'utilise beaucoup eView Media Pro, et puis de plus en plus Lightroom. C'est ces deux logiciels que j'utilise pour faire l'editing, soit l'un, soit l'autre.
Et pour le traitement, j'imagine, Photoshop ?
Alors, il y a un premier traitement, il y a le traitement du RAW. Là, j'utilise Lightroom. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes dans ce logiciel, notamment ce qu'on appelle l'editing des mots-clés, c'est-à-dire que ce qui est important pour retrouver ces photos plus tard, c'est de les renseigner au niveau des mots-clés, des champs IPTC.
Donc les métadonnées sur les images.
Voilà, les métadonnées. Et ce qui est ce qu'on a tendance toujours à faire, on dit qu'on va le faire plus tard et on ne le fait jamais. Donc Lightroom permet de le faire dès le départ.
De manière simple.
Voilà, de manière assez simple. C'est très, très, très bien fait, je trouve. Surtout la gestion des mots-clés. Et donc, voilà.
Et donc, tu développes les fichiers RAW dans Lightroom ?
Voilà, je les développe dans Lightroom.
Sachant que tu as donc, à ce moment-là, toute la qualité du traitement qu'on a dans Photoshop, puisque c'est le même éditeur.
Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé longtemps avec Capture One. Enfin, je travaille avec, souvent pour développer les RAW. Je trouve qu'il y a une très, très bonne qualité, beaucoup mieux que caméra RAW, mais je trouve que depuis Lightroom, il y a un grand progrès chez Adobe. Et voilà, donc moi j'utilise surtout Lightroom parce que je le trouve très très bien fait, très pratique. Donc une fois que les photos sont pré-développées, les réglages sont faits, soit s'il y a besoin, je les ouvre sur Photoshop pour effectuer encore des petites modifications ou des retouches si ça le demande, ou sinon je m'arrête à Lightroom, j'exporte mes photos et puis après je les grave.
Dans Lightroom, qu'est-ce que tu fais principalement comme réglage ? Alors une balance des blancs, quelque chose comme ça ?
Oui, ça commence par là. Ça commence déjà par renseigner les mots-clés. Ensuite, ça passe par la balance des blancs, l'exposition peut-être à corriger, rattraper un peu
le cadrage ?
Le cadrage, parfois. Parce que parfois, on me demande de faire des photos qui rentrent dans une certaine homothétie. Parce que ça va être publié ou alors ça va faire partie d'un site web et les homothéties sont déjà définies. Donc
le rapport hauteur-largeur.
Voilà, le rapport hauteur-largeur. Donc je fais le cadrage sous Lightroom. Ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière. Si jamais on a cadré trop serré, trop loin, on peut toujours revenir en arrière, rien n'est perdu. Et donc, voilà, oui, parfois ça m'arrive de devoir recadrer les images.
Ça t'arrive d'avoir des problèmes techniques, que ça soit avec Lightroom, avec Photoshop?
Quel genre de problème technique?
Bon, bah, t'en as pas très
bien. Non, si, je peux en avoir, mais...
Non, mais par exemple, justement, par exemple... là, tu dis que c'est bien de pouvoir revenir en arrière. Éventuellement, ça aurait pu ne pas être le cas, et à ce moment-là, t'aurais eu un problème de ne pas pouvoir revenir en arrière.
Ben, non, parce qu'on garde toujours l'original qui est non modifié, donc il aurait fallu recommencer, au pire des cas. Les problèmes techniques que l'on peut avoir... Oui, il y en a sûrement, mais je les vois pas comme ça.
Tout va bien. Donc, tu me disais que tu exportais tes images, hein, que tu les gravais sur un CD.
Oui.
Ça veut dire que tu livres systématiquement tes images sur CD?
Oui, CD ou DVD, selon la capacité qui a assez de place sur le CD. Mmh. Oui, voilà, c'est souvent ça. De temps en temps, des tirages. De temps en temps, ils me demandent des planches contact. De temps en temps, oui, mais comme... Souvent, c'est quand même que le CD-ROM.
Et les fichiers que tu livres, c'est en JPEG, en TIFF?
Alors moi, ça dépend pourquoi aussi, mais la plupart du temps, je livre des JPEG haut def et des JPEG basse def.
Les deux?
Voilà.
300 points par pouce, 72 points par pouce?
Voilà, mais avec des tailles différentes. Voilà, c'est ce que je fais généralement, mais parfois ben, je livre des TIFF parce que ça a besoin d'être imprimé dans telle et telle condition. Donc,
est-ce qu'on te demande un profil de couleur particulier?
Alors en général, moi ce que je remarque, c'est les gens à qui j'ai affaire ne connaissent pas tout ça. C'est-à-dire ne savent pas ce que c'est qu'un profil de couleur, etc. Donc moi j'essaye d'anticiper les problèmes en donnant des profils le plus large possible, souvent d'Adobe 98. Parce que c'est souvent soit des gens qui travaillent dans l'entreprise qui savent, qui vont s'occuper de faire la communication interne ou externe, mais qui vont après donner ça à l'imprimeur ou donner ça au webmaster et les problèmes techniques, ils les connaissent pas, quoi. Donc j'essaye d'anticiper, de donner le travail le mieux possible pour que la personne soit tranquille et que ça se passe bien dans ce qu'elle a à faire avec les photos.
Donc tu livres le maximum d'informations.
Voilà.
Est-ce que ça t'arrive qu'on demande des modifications?
Oui, c'est très souvent.
Donc, il y a des allers-retours?
Il y a des allers-retours. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets les photos sur un site. Le client peut voir avant que je lui grave le CD, avant qu'il y ait des retouches trop compliquées à faire. Et puis, on en parle et puis ça se fait comme ça. Mais non, des retours, ça va être... ça va être peut-être des retouches en plus à faire, des retouches supplémentaires. Ça peut arriver, oui.
Et en général, les clients sont contents.
Oui.
Ouais. Oui. Ça génère beaucoup de mégaoctets, de gigaoctets en 5D, parce qu'il y a 12,7 millions de pixels, donc on remplit très vite les cartes mémoire, très vite les disques durs. Mm-hmm. Comment est-ce que tu gères l'aspect sauvegarde et archivage?
Alors, c'est mes grandes questions qui me travaillent beaucoup. Disons que moi je grave, je mets tout sur mes disques durs et que je grave systématiquement sur DVD progressivement pour vider les disques durs. Mais j'aimerais bien avoir une solution qui est plus efficace, c'est-à-dire que la capacité d'un DVD me semble un peu limite aujourd'hui.
Mais on peut le remplir en une journée facilement.
Alors, même on en remplit plusieurs en une journée. C'est-à-dire que moi, je sais que je reviens d'un reportage souvent avec au moins 10 gigas de photos.
Donc, ah, quand même.
Voilà, et on est dans les brutes. On n'est pas encore avec les photos retouchées, retravaillées, etc. etc. Donc, ça fait... J'aimerais bien que les Blu-ray ou le prochain support arrive et se démocratise assez rapidement. Parce que voilà, moi j'ai tous mes fichiers sur DVD, sur disque dur, tout est en double un peu partout. Voilà, comme ça que je le gère et puis je retrouve les choses assez facilement puisque j'ai renseigné mes photos.
Et alors on parlait tout à l'heure des deux formats, RAW plus JPEG. L'intérêt du JPEG, c'est que dans 100 ans, tu pourras sûrement le relire facilement, alors que le RAW, peut-être pas.
Oui, peut-être pas, et peut-être pas... Peut-être pas le JPEG non plus, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer.
Donc, est-ce que tu fais des conversions du format RAW vers le format DNG?
Oui, je fais. Pas systématiquement.
Qui est un format standard pour les fichiers RAW?
Ça dépend pourquoi. Par exemple, il y a des sujets où je sais très bien qu'ils ont une durée de vie très limitée. Par exemple, un sujet événementiel qui est... On sait très bien que ces photos ont une durée de vie très courte. Là, je ne vais pas faire une sauvegarde en DNG, mais de plus en plus je le fais parce que Lightroom, en fait, permet de le faire tellement facilement que je me demande si je ne vais pas le faire systématiquement.
Pour ton travail personnel, tu travailles de la même manière ?
Non, moi, mon travail personnel, comme c'est des photos qui sont sur plus long terme, je suis un peu fou, là, du coup, je fais en DNG, en RAW, je grave ça en 15 millions d'exemplaires, dans plein d'endroits différents. Là, je deviens un peu fou, mais je pourrais pas le faire pour toutes les photos que je fais au quotidien.
Plus des tirages papier.
Voilà, il y en a partout.
Tu me disais tout à l'heure que tu avais fait des études de photo.
Oui.
En Belgique, c'est ça ?
Voilà, j'ai fait une école en Belgique, qui était une école... C'était dans une école style Beaux-Arts où il y avait une section photo. Et la photo qu'on apprenait là-bas, c'était beaucoup photo de reportage. C'est-à-dire un peu l'exemple qu'il y avait là-bas, c'est l'agence Magnum. Donc c'était plutôt du reportage de fond. Donc on partait souvent à l'étranger faire des photos. On revenait au bout de plusieurs semaines. Avec les sujets qu'on avait faits, on repartait, on passait du temps à faire des sujets de reportage de fond. Ça, c'était très, très passionnant à faire. Moi, j'ai adoré cette expérience. Et surtout, le fait d'être dans une émulation où beaucoup de gens faisaient des photos, se recherchaient, cherchaient des images. Et d'être dans tout ça, c'était passionnant, vraiment passionnant.
Et qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là qui te sert le plus aujourd'hui ?
Alors, l'intelligence de cette école, ça a été de faire que de pas développer forcément uniquement le côté technique en disant il faut absolument qu'on apprenne la technique à nos élèves, mais ce qu'ils nous ont surtout appris, c'est à développer notre œil. C'était vraiment de comprendre et d'apprendre ce que c'était qu'une bonne image, de nous nourrir en permanence avec des photographes qui venaient à l'école. Nous montrer leurs travaux, regarder les nôtres, nous donner leur avis. Ça a été Cartier-Bresson, Sarah Moon, des gens comme ça qui sont venus à l'école et qui nous ont beaucoup nourris. On a vu beaucoup d'expos. On passait notre temps à aller à l'étranger, même voir des expositions. Donc c'était vraiment nourrir notre œil et apprendre à développer un œil de photographe. Il y a quelque chose que qui m'avait beaucoup amusé quand j'étais dans cette école de photo. C'est qu'on partait, par exemple, à 5 élèves dans une voiture. On partait à passer plusieurs semaines en Roumanie. Et donc, on était 5 photographes à passer au même moment, aux mêmes endroits. Donc, on entendait des clics partout, toutes les 5 minutes. Et moi, je revenais de là en me disant, mais on va avoir tous les mêmes photos. On était tous au même moment, au même endroit. Moi, j'ai pris cette photo, les autres l'ont pris. On a tous vu la même chose. Et bien, c'est ce qui était étonnant. C'est quand on regardait nos reportages au final et nos photos, les visions étaient tellement différentes, on pouvait à peine imaginer qu'on était passé au même endroit. Pour moi, c'était frappant, c'est-à-dire de voir que la chose qui retenait l'attention ou la sensibilité des personnes était tellement différente et on voyait tellement des choses différentes que je me suis dit, bon, ben, chacun a sa vision, chacun veut montrer les choses, comment il les perçoit, comment il est avec lesquelles il est sensible. Finalement, on voit plusieurs vérités d'un même sujet. Donc, on développe une sensibilité et parfois, sur un sujet, ben, il faut le sujet entier pour comprendre ce que le photographe a voulu montrer. Parfois, c'est une seule image. Parfois, il n'a pas envie que... Enfin, je ne sais pas, il y a autant de variations que de photographes différents.
Alors, de là, tu pourras sûrement... nous déduire une réponse pour la dernière question qui est quel conseil tu donnerais un débutant qui voudrait se lancer dans le reportage?
Dans le reportage c'est un métier qui est déjà difficile et qui est de plus en plus difficile. Pour le reportage, ça dépend ce qu'on appelle le reportage, mais si c'est partir à l'étranger, faire des photos, revenir et vendre son sujet, ça devient de plus en plus difficile. C'est malheureusement difficile. J'aurais pas beaucoup de conseils à lui demander à part beaucoup de passion, de courage, de patience et voilà, de s'accrocher, parce que c'est le reportage quand même, c'était difficile et c'est devenu de plus en plus difficile.
Et du côté de la photo institutionnelle ?
Ben là déjà, il y a plus de possibilités, puisque là, il y a quand même il y a quand même déjà une commande, donc ça veut dire que quelqu'un a besoin de cette photo et est prêt à mettre un certain prix pour l'avoir, et après, c'est est-ce qu'on est d'accord pour le faire à ce prix-là ? Et voilà, oui, là, il y a quand même un rapport qui est moins un pari sur l'avenir, quoi. Là, on vend une prestation.
Tu me parlais tout à l'heure d'appel d'offres.
Alors, souvent, les gens ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de faire des photos, ils font comme tout le monde. Ils envoient une proposition à plusieurs personnes, ils leur demandent des devis et ils comparent.
Donc, il faut être dans les carnets d'adresses à ce moment-là.
Oui, dans les carnets d'adresses. Donc, il faut se faire connaître. Il faut parler de son travail. Enfin, il faut faire une partie commerciale qui est quand même un peu importante.
Merci Cyril.
De rien.
Salut.
Avec plaisir. Как брзо мина, сърце ми е здраво, сърце ми е младо, младост мина, как брзо мина, сърце ми е здраво, сърце ми е младо. Айде! Айде!